je suis né à Bourg, ben, il y aura bientôt 85 ans.
Je suis bien,
le, à la fin du mois de juin. Alors, on n'est pas loin. Hein. Vous voyez que je suis tout jeune. Hein. Voilà. Bien. Ceci dit, comme vous, j'étais élève de Lalande. Et c'est peut-être un préambule que je voudrais ouvrir aujourd'hui. C'est, je ne l'avais jamais fait jusque-là, mais c'est vrai, j'y ai repensé depuis. Quand on venait au lycée, on dit « je suis dans mon lycée hein ». Je suis à Lalande, c'est mon lycée. Quand on y est, c'est normal. Eh bien, je dois dire que c'est vrai. Moi, quand j'étais élève comme vous, ici, j'ai fait la seconde, la première, la terminale, en tant qu'élève normalien, puisqu'à l'école, à l'époque, l'école normale avait été fermée par Vichy. Eh bien,
l'école normale, je crois que vous avez expliqué.
L'école normale d'instituteurs, c'est l'école qui forme les enseignants. C'est, maintenant, c'est l'IUFM. Oh, ça s'appelle. On a changé de nom, mais la maison est toujours la même. Alors, je dois dire que, moi, je parlais de mon lycée. Quand on me disait, tu es où? Ben, je suis dans mon lycée, je suis à Lalande. C'était mon lycée. Eh bien, mon lycée, c'est vrai. Et puis, vous avez raison de vous l'approprier parce que le lycée, c'est vous qui le faites. Et je dois dire que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qui m'est arrivée à un moment donné, mais cette histoire, elle est à vous. C'est la vôtre. Parce que quand on rentre dans un établissement, quel qu'il soit, on prend son histoire telle qu'il est, vous la prenez, vous pouvez pas la changer, malheureusement. Hein. L'histoire, elle s'est faite avant vous, mais par contre, vous pouvez apporter quelque chose de plus à l'histoire du lycée. Chacun d'entre vous peut apporter quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais peut-être que demain, vous verrez. Vous aurez apporté quelque chose de nouveau au lycée, un plus, quel qu'il soit. C'est ce que je voulais vous dire en préambule. Donc, en 1941, je passe le concours d'entrée à l'école normale, et je rentre au lycée Lalande. 1941, je rappelle, la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. Hein. La guerre a commencé en 1939. Il n'y a pas eu de guerre, pour ainsi dire, entre 1939 jusqu'à mai 1940. Et d'un seul coup, les Allemands ont déclenché la bataille, mais en évitant justement d'utiliser les endroits où on les attendait. Parce que on les attendait où? Ben, le long du Rhin ou entre le Rhin et le Luxembourg. C'est là qu'on les attendait. D'ailleurs, l'Allemagne avait construit la ligne Siegfried pour se protéger des Français, puis les Français avaient construit la ligne Maginot pour se protéger de l'Allemagne. Ben, les Allemands, quand ils ont attaqué au mois de mai-juin 1940, donc l'année d'après, mais ils sont passés vers la Belgique. Enfin, ça, il n'y avait pas de ligne, ni de Siegfried, ni de Maginot, il n'y avait pas de ligne du tout. Et puis, les troupes françaises n'étaient surtout pas là. On les avait toutes massées vers le Rhin, alors qu'ils sont passés tout à fait par le nord de la France. Et c'est pour ça que la guerre de 1940 a duré très peu de temps, parce que les armées françaises n'étaient pas là, elles étaient à l'autre. Il a fallu tout transporter, tout le monde, de l'autre côté. Les Allemands, eux, s'étaient transportés où il fallait parce qu'ils savaient où ils allaient attaquer, mais les Français ne savaient pas où ça allait commencer. Voilà. Donc, la guerre n'est pas terminée en 40. Mais, par contre, les Allemands, qui ont gagné cette première bataille, cette bataille importante, eh bien, les Allemands entrent en France, occupent la France, et ils auront occupé la totalité du territoire, ils vont se répartir par. Puis après, il y a un accord avec Vichy, et ils vont se reculer jusqu'à à peu près la moitié de la France. On va appeler ça, on appelle une zone dite occupée, la zone qui est au nord, parce que les Allemands y étaient en permanence. On appelle la zone sud la zone libre. Libre de quoi, j'en sais rien. Enfin, disons que les Allemands n'y étaient pas. Voilà la seule nuance qui est entre les deux. Par contre, les Allemands donnent des ordres à Vichy et les Allemands viennent prélever largement tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin, aussi bien dans la zone sud que dans la zone nord. Hein. On ne regarde pas de quelle zone on est. Voilà. je passerai rapidement, donc, j'habitais Bourg, j'habitais boulevard, mes parents habitaient boulevard de Gourou, mais du fait que j'étais normalien, j'étais interne au lycée. C'était une obligation, j'ai même pas eu le choix. Ceci dit, je rentre, et je dois dire que mon frère aîné, j'avais un frère aîné qui avait 8 ans plus que moi, il était né en 1916, et moi en 24, eh bien, mon frère aîné lui avait fait la guerre, et il était prisonnier en Allemagne. Alors donc, ça m'avait déjà marqué de ce côté-là. J'avais été marqué par mon frère prisonnier en Allemagne. Et je dois dire qu'en 1941, lorsque je suis rentré ici, sachant qu'à Bourg, il y avait déjà des gens qui résistaient. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient contre le gouvernement de Vichy. Mais bien sûr, ils ne le disaient pas et ils ne l'affichaient pas non plus. Parce que sinon, ils étaient arrêtés immédiatement. C'était absolument interdit d'être contre Vichy. Et les circonstances ont voulu qu'un de mes camarades aille pour acheter ses livres d'occasion chez Pioda. Monsieur Pioda était un vitrier de la rue Victor Bache aujourd'hui. À l'époque, c'était la rue du gouvernement, parce que c'était la rue où il y avait le gouvernement à l'époque de la royauté. Eh bien, donc, il va chez Pioda. Or, je savais que Pioda était quelqu'un qui s'occupait, qui avait fait la guerre comme capitaine de réserve, qui avait réussi à ne pas être prisonnier, et qui donc était rentré chez lui. Et immédiatement, il s'était mis, il était contre le régime de Vichy. Et donc, Marcel Tenon, en l'occurrence, va chercher chez Pioda. Il lui avait dit, je lui ai dit, écoute, Pioda, avec Marcel Tenon, ça n'était pas un normalien. Mais c'était un fils de cheminot, donc cheminot, ça veut dire quoi? À titre documentaire. C'est un employé du chemin de fer. On appelait ça des cheminots. Employé du chemin de fer, cheminot, chemin de fer. Voilà. Donc c'était un fils de... Son père travaillait au chemin de fer. C'était donc pas des gens très riches, c'est sûr. D'autant plus qu'il était le second d'une famille de 5. Il avait une sœur aînée qui avait 2 ans de plus que lui, qui était d'ailleurs... qui était en terminale ou lycée de filles à l'époque. Et donc Marcel Tenon cherchait des livres d'occasion à acheter parce que ça coûtait moins cher que des livres neufs, bien sûr. Et il n'y avait qu'un seul endroit à Bourg où on en trouvait, c'était chez Pioda, parce que Pioda avait une sœur qui s'occupait à ça, entre autres. Elle s'occupait du magasin, parce que il vendait, c'était un vitrier, mais en même temps, il avait un magasin où il exposait des peintures. Beaucoup de gens qui peignaient venaient mettre leurs tableaux dans sa vitrine, puis les vendaient. Et c'est sa sœur, surtout la Louise Pioda, qui s'occupait de ses ventes. Et donc, mais Pioda était très lié avec quelqu'un qui venait d'arriver à Bourg depuis 1941, qui était le général de Lestrin, lequel arrivait de Besançon, puisque c'était lui qui commandait la subdivision de Besançon. Et où il y a aujourd'hui le collège de Brou, vous savez peut-être où il est, boulevard de Brou, mais le collège avait été, à l'époque, moi je l'ai connu, c'était la maternité départementale, ensuite c'est devenu un collège, et ça a été fermé à ce moment-là pour mettre la subdivision de Besançon dedans. Mais le général de Lestrin avait donc son bureau là-bas. Et il habitait rue Voltaire, en haut de la rue Voltaire, en haut et à gauche d'ailleurs, il y a une plaque sur l'immeuble où habitait le général de Lestrin. Et donc, Pioda de Lestrin, tout de suite, entre la rencontre entre les deux hommes, avait un tilt, et c'est comme ça que la résistance de Bourg va commencer. Et Marcel Tenon, se trouvant d'aller chercher des livres, je lui dis, demandons, il me semble que... Et effectivement, la deuxième ou la troisième fois, eh bien, Marcel Tenon est revenu avec, il me dit, il me prend dans un coin, puis il me dit, dis donc, voilà ce que Pioda m'a donné. Mais il m'a dit surtout, si on était arrêté, si on le trouvait, ce journal, il fallait surtout dire qu'on l'avait trouvé, puisqu'il ne venait pas de chez lui. C'était un journal clandestin, et ce journal s'appelait Libération. C'est le premier journal clandestin que j'ai pu lire. Et effectivement, on s'est mis dans un coin du lycée, les deux, et on a commencé à lire. Et c'est vrai que les nouvelles qui étaient là, c'était des nouvelles qu'on ne connaissait pas. C'est des nouvelles auxquelles on n'avait pas du tout accès, parce que c'était des nouvelles qui arrivaient de Londres, pour la plupart. C'est-à-dire qu'on donnait des nouvelles sous une autre forme que Vichy, qui lui les donnait sous la forme allemande. C'est-à-dire que Vichy ne transmettait que les nouvelles que les Allemands, lui, transmettaient. Voilà. Voilà un petit peu la genèse de la résistance, c'était ça. Donc c'était, il fallait informer les gens. Bien sûr, vous allez me dire, on avait, mais aujourd'hui, il y a la télé. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Il y avait la radio, déjà. Mais il y avait très peu de gens en 1940-41 qui étaient équipés de postes de radio. Parce que ça coûtait cher, et puis les gens avaient d'autres dépenses à faire, c'est vrai. La radio était à ses débuts en plus. Et vous savez que tout ce qu'on lance est toujours cher. Voilà. Donc, les nouvelles étaient importantes. Alors, je sais que mes parents étaient avec la radio. On avait la radio à la maison et on essayait d'écouter Radio Sautens, ce qui était la radio de Genève à l'époque. C'était la radio suisse. Et les Suisses donnaient des nouvelles beaucoup plus libres que celles de France. Mais ils redonnaient des nouvelles qui transitaient quand même par l'Allemagne pour la plupart d'entre elles. La Suisse était entourée, est au nord, bordée par l'Allemagne. Elle est bordée à l'est par l'Autriche, qui était occupée par l'Allemagne, au sud par l'Italie, qui était l'allié de l'Allemagne, avec le Duce, Mussolini, et puis à l'ouest par la France, qui était occupée par les Allemands. Ce qui veut dire que la Suisse était absolument entourée sur les quatre faces par l'Allemagne ou ses alliés. Donc les nouvelles... Elle faisait très attention dans ce qu'elle transmettait, pour éviter que justement que les Allemands n'entrent en Suisse, et elle occupe aussi. Donc, mais malgré tout, avec Radio Sautens, on avait quelques nouvelles qu'on n'avait pas par les radios françaises, de Vichy de l'époque. Voilà. Ensuite, eh bien, quand on a eu le premier journal, on a vu des nouvelles, bien sûr, qui arrivaient, qui étaient des nouvelles qui arrivaient de Londres, par des voies, des parachutistes, des choses comme ça, où, eh bien, c'est sûr que on lisait autre chose. Puis on était avide de connaître quelque chose, d'avoir des nouvelles un peu plus réelles que celles qu'on avait. Et donc, on a lu ce livre. Et puis, je dois dire qu'on l'a fait passer à des copains, parce qu'il y avait des copains avec qui on discutait, et on savait qu'ils avaient les mêmes opinions que nous, là-dessus. On choisissait, hein, pas n'importe lesquels, mais avec ceux avec lesquels on est. Et puis, une fois que on a vu ce que ça avait apporté à chacun, eh bien, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là que Marcel Tonneau a posé la question à Piodat. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Est-ce qu'on voudrait s'engager dans ce combat? Et c'est là que Piodat a dit, la résistance, elle existe, elle est organisée, mais elle est très stricte. C'est-à-dire que dans la résistance, on ne va pas comme au bureau de tabac pour se faire inscrire pour ceci ou pour cela. On ne va pas dans un bureau pour se déclarer en disant, voilà, non. Vichy était là, l'Allemagne hitlérienne était derrière, par conséquent, il fallait. Ça ne pouvait se faire que clandestinement. Or, si c'est clandestin, c'est dangereux, parce que c'est réprimé et réprimé durement. Donc, la solution, c'était que l'organisation soit le plus étanche possible, c'est-à-dire que lorsqu'on en arrête un, on n'arrête pas les autres. C'est ainsi que la résistance s'est organisée. Le mouvement s'appelait Libération et il était organisé de la façon suivante. Il y avait un chef de sixaine. Le chef, c'est celui le premier qui avait l'idée de vouloir lancer quelque chose. Il dit, moi j'ai envie de faire quelque chose, allez. C'est donc lui qui prenait la direction, il était tout seul. Et il cherchait cinq copains. C'était pas limité aux hommes, ça pouvait être homme ou femme, hein. C'était pas. Hein. C'était cinq copains, c'est-à-dire cinq personnes qui pensaient comme lui. Mais il évitait surtout de les voir ensemble. C'est-à-dire qu'il les voyait séparément dans des lieux différents, à des heures différentes, pour leur parler, en voulant leur demander s'ils voulaient s'engager. Et s'il y a l'accord d'engagement pour la résistance, il fallait prendre certaines précautions avant, hein, pour ne pas être dénoncé. Eh bien, à ce moment-là, celui ou celle qui avait dit oui entrait dans la résistance. Mais celui ou celle qui venait d'être recruté ne connaissait qu'une personne, le chef de la sixaine. Il ne connaissait personne d'autre. Parce qu'il les voyait, les cinq autres, il les voyait séparément. Ça veut dire qu'on pouvait être côte à côte en classe sans savoir qu'on appartenait à la même sixaine. Par contre, les deux côte à côte connaissaient leur chef de sixaine, c'était elle-même. Mais elle ne le savait pas. Parce que personne ne disait rien, on évitait d'en parler à d'autres, surtout de parler d'organisation. Voilà l'organisation même. Bon, ensuite, je voudrais passer quand même assez vite sur certaines choses, parce que je pense que vous aurez des questions à me poser. Hein. La résistance est organisée comme ça. Quelles ont été ses activités? Bien, les activités ont été, au début, essentiellement la distribution de journaux clandestins, bien sûr, mais de tracts. Les journaux clandestins étaient des journaux qui étaient imprimés avec des nouvelles qui arrivaient, je vous l'ai dit, de Londres ou d'ailleurs, mais enfin, surtout de Londres à l'époque. Eh bien, alors, le premier qu'on a eu, je vous ai dit Libération, mais il faut savoir qu'il y avait d'autres mouvements qui s'étaient créés. À Bourg, Libération, c'est Pioza. Mais il y en a d'autres qui avaient créé un autre, qui appartenaient à un autre mouvement qui s'appelait Combat. Puis il y en a d'autres qui étaient un troisième mouvement qui était franc-tireur. Combat s'est développé à Bourg, franc-tireur s'est développé plus du côté de Miribel, la banlieue de Lyonnaise, etc. Mais ça, ça tenait aux personnes qui étaient là. Parce que avec Marcel Senon, on a touché Pioda. Pioda était à Libération. Pioda a été à Combat ou Pioda a été à franc-tireur, c'était pareil. Le nom avait tellement peu d'importance. D'autant plus qu'on ne connaissait pas forcément le nom des autres mouvements de résistance. On les a su après, surtout. On voulait faire de la résistance, on appartenait à un mouvement de résistance, c'est tout ce qu'on voulait. Qui s'appelle, n'importe comment, Libération. Il portait en lui-même, déjà, le souhait qu'on avait. C'est d'être libre. C'est-à-dire de ne plus être occupé par les Allemands. Alors, voilà. Donc, distribution de tracts, de journaux. Les journaux étaient imprimés sur le plan régional ou le plan la France, la zone sud. Mais c'était très difficile pour imprimer parce qu'il fallait d'abord trouver une imprimerie. Puis ensuite, quand on avait l'imprimerie, trouver les gens qui voulaient imprimer parce que c'était quand même risqué. Parce que celui qui était pris à imprimer des choses pareilles, je dois vous dire que il était non seulement arrêté, mais il risquait d'être exécuté tout de suite, hein, d'être fusillé ou autre chose. Il y avait des risques. Hein. C'était formellement interdit. Par conséquent, donc, il y avait de gros risques. Et alors, ensuite, il fallait trouver du papier. C'était une denrée extrêmement rare à l'époque. et puis trouver de l'encre. Et puis à partir de là, il fallait trouver le moment pour le faire. Parce qu'il fallait trouver un moment où il n'y a pas de risque de gens qui viennent vous déranger, puis qui donnent un coup d'œil, qui disent « Oh là, on fait quoi ici ?» Et puis qui arrivent de le raconter après dehors. Donc c'était quelque chose de... Puis alors, fabrication aussi de tract. C'est-à-dire que un journal, ça a deux ou quatre pages, même si c'est des petits, ça a deux ou quatre pages. Donc ça suppose déjà un volume de papier et un poids de papier important. Alors qu'un tract, ça peut être un petit bout de papier sur lequel on écrit pas mal de choses et on peut le faire de façon plus locale. Et c'est ainsi qu'on a eu des premiers tracts qui sont sortis à Bourg, entre autres, qui mettaient en exergue les noms des collaborateurs, c'est-à-dire les noms de gens de Bourg qui collaboraient avec l'ennemi. Il y en avait. Alors bien sûr, quand il y avait leur nom dessus, les résistants les connaissaient. On disait, oh celui-là, voilà, c'est un pourri, un vendu. C'est souvent, ça a été le cas. Et puis, bien entendu, si vous étiez arrêté avec un tract comme ça, alors là, les foudres vous tombaient dessus, hein, tout de suite. Ensuite, vous allez me dire, on ne libère pas un pays avec du papier. Il faut autre chose. Et les jeunes qu'on était, eh bien, après, avec les mois qui ont passé, eh bien, on avait organisé d'abord, on a organisé les premières sixaines au lycée, puis ensuite on a eu une trentaine, parce que cinq sixaines formaient, cinq chefs de sixaine se réunissaient et il y avait un chef de trentaine. Enfin c'est pour eux qu'ils désignaient. Il y avait, la résistance désignait un chef de trentaine qui lui, à Olivier Odel, et non des cinq chefs de sixaine. Et ils les voyaient séparément pareil. C'était pareil. Du haut en bas de l'échelle.
Allez-y, je regarde ça.
Et ensuite, eh bien, la première trentaine s'est faite au lycée, puis après, on en a même eu une deuxième trentaine, ça voulait dire qu'il y avait 60 élèves qui appartenaient à la résistance. Ce qui veut dire que le mouvement de résistance au lycée Lalande a été un mouvement qui n'a pas été un mouvement de quelques élèves dans une classe, mais du... J'allais dire, pas d'une majorité d'élèves, mais d'un nombre important d'élèves qui, dès le début, se sont sentis poussés par, ou attirés, justement par ce besoin de liberté qu'on venait de leur enlever. Et puis la France qui était occupée, c'était vraiment lamentable. Puis alors, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, eh bien, la nourriture manquait, puisque Vichy avait établi les cartes de rationnement, et vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a plus à manger? On avait 1 million de prisonniers en Allemagne, de Français qui avaient été faits prisonniers, donc c'était 1 million de moins qu'il fallait nourrir. Et il n'y avait plus rien à manger. Ben, tout simplement parce que les Allemands venaient, et quand les récoltes se faisaient, ben, la récolte, au lieu d'aller dans les entreprises locales pour être transformées et ensuite consommées, eh bien, c'était mis en wagon et les trains partaient en Allemagne. Mais vous allez me dire, mais pourquoi les Allemands transportaient ça chez eux? Mais tout simplement parce que les Allemands, les hommes allemands valides, étaient soldats, et du fait qu'ils étaient soldats, il n'y avait plus personne pour faire marcher l'entreprise. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait donc bouger. Ce que les Allemands ne produisaient plus, il fallait que les autres le produisent et aller chercher chez eux. Voilà. Et c'est ainsi que la carte de rationnement est arrivée et que dans les familles, la mère de famille touchait les cartes de rationnement pour son mari. S'il était là, quand il était prisonnier, ben, elle avait pris la carte de son mari, bien sûr. Et s'il était là, ben, la carte du couple, plus les cartes pour les enfants. Et les cartes pour les enfants, à l'époque, étaient fonction de l'âge des enfants, parce que ceux de 14-15 ans avaient un petit peu plus que ceux de 7-8 ans. Et c'était la seule différence. Mais dans tous les cas, que ce soit pour le pain, que ce soit pour tout, j'aurais dû vous en amener des cartes, parce que j'en ai toujours à la maison que ma mère avait gardé soigneusement. Eh bien, des cartes de ravitaillement, c'est quelque chose de... On n'y pouvait rien. Je vous dirais que la résistance a arrangé certaines fois. Parce que la résistance, on a fait des coups de main sur justement les cartes d'alimentation et on piquait des cartons de cartes. Comme elles n'étaient pas nominatives au départ, on les avait en blanc et on mettait les noms qui on voulait dessus. Et ça permettait de redonner des cartes à certains qui avaient des problèmes familiaux difficiles à résoudre. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, ça ne fait pas la libération, tout ça. Eh bien, il a fallu attendre quand même jusque en fin d'année, la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en 1942, pour qu'on ait la première mitraillette. Parce que la première mitraillette est arrivée lorsque les premiers parachutages ont eu lieu, c'est-à-dire lorsque la résistance a été organisée et que les Anglais ont commencé, avec l'aviation anglaise, avec la Royal Air Force, à faire des parachutages. Mais ça supposait toute une organisation qui était une organisation très spécifique dans la résistance. Il y avait une organisation très limitée qui s'occupait exclusivement des parachutages. C'est-à-dire qu'elle savait quand, où aurait lieu le parachutage suivant. Elle le savait. La date, elle le savait par la radio de Londres. La radio de Londres transmettait des messages. Tous les jours, dans la radio de Londres, il y avait des messages personnels. Alors, par exemple, ma chèvre va bien. Je vais me dire, la chèvre à qui? C'était des... Oui. Ça ne voulait rien dire. Mais il y avait quelqu'un qui savait que lorsqu'on dirait que ma chèvre va bien, ça voulait dire que le lendemain soir, il aura un parachutage sur tel terrain, qui était un terrain homologué. Voilà ce que ça voulait dire. Mais personne ne le savait. Il n'y a que celui qui était au courant qui le savait. Et chaque secteur avait un message personnel différent. Il y en a certains qui étaient drôles, d'autres qui l'étaient moins, mais enfin, il y avait toujours quelque chose. Et quand on écoutait la radio d'onde avec les messages personnels, il y avait des gens qui se demandaient en disant « Ces messages personnels, ils s'adressent à qui, à quoi? Ça veut dire quoi ?» Et c'est bien que quand la guerre était finie, que les gens ont su que les messages personnels représentaient des ordres qui étaient donnés par des messages qui ne voulaient rien dire autrement. Voilà. Donc on a eu la première mitraillette à ce moment-là, et à ce moment-là, on a commencé à apprendre. Les élèves, on était comme vous, on n'avait jamais vu d'armes, ni touché d'armes, et un jour ou l'autre, on savait qu'il faudrait s'en servir. Parce qu'on savait très bien que la libération ne se ferait pas sans qu'il y ait. Les Allemands n'allaient pas s'en aller comme ça. Donc il allait falloir reprendre le combat. Et pour reprendre le combat, on ne peut le reprendre normalement que si on est préparé à le faire. Donc on a commencé à faire la première préparation de tous les résistants, qui étaient des jeunes, essentiellement, au lycée, hein, qui n'avaient jamais touché d'armes et autres, et bien on leur a appris ce que c'était qu'une mitraillette, on leur a montré ce que c'était, et puis il a surtout fallu leur apprendre à la monter, parce que la mitraillette, quand il pour la transporter, vous ne pouvez pas la transporter, aujourd'hui, les gendarmes se promènent avec une mitraillette pendue ou un fusil ou un pistolet dans leur poche. Ça paraît pas anormal, mais à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de se promener avec une mitraillette. C'était l'arrestation immédiate, c'est sûr. Donc, celui qui voulait la transporter, il fallait la mettre en pièces détachées, puis la mettre dans un tout petit sac, puis la... Mais une mitraillette en pièces détachées, ça ne sert à rien. il faut la remonter. Elle ne sert que si elle est montée. Eh bien, on a appris, justement, aux jeunes que nous étions, moi j'ai d'abord appris, moi, puis après j'ai appris à d'autres. Et ça a été comme ça, on a tous fait pareil. Apprendre à avoir une mitraillette en pièces, et c'était assez facile d'ailleurs, il y avait 5-6 pièces, pas plus. C'était des pièces qui n'étaient pas très très grosses, et apprendre ensuite avec, à la remonter très vite. Parce qu'il n'est opérationnel que c'est les remontées. Sinon, ça ne sert à rien. Pour une mitraillette en morceaux dans son sac, ça ne sert à rien. Ça ne sert que si elle est montée. Donc il a fallu apprendre à la monter très vite. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait. On faisait ça à l'époque, le jeudi après-midi, parce que c'était le jeudi qu'on était en congé. Et on a fait ça dans les arrières d'une ferme des environs de Bourg, qui était la ferme des parents de nos copains, qui étaient résistants et qui étaient pas dans la même classe que moi, mais dans la classe d'après. Voilà. C'était donc chez ses parents, juste en bordure de la forêt de Saillon, sur la commune de Perronnant. C'était juste sur la commune de Perronnant. C'est-à-dire pas très loin d'ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis alors après, vous allez me dire, c'est bien, ça va apprendre à monter la mitraillette, on chronométrait ensuite la vitesse, parce qu'il fallait arriver à la monter en quelques secondes. Hein. Donc, fallait. Et puis après, le jour ça va, on voit les pièces, mais la nuit. Et bien après, on a fait à chacun, on mettait un bandeau sur les yeux, comme s'il faisait nuit, on lui mettait les pièces devant sur la table, puis il fallait qu'au toucher, il les repère et il les monte. Et on chronométrait là aussi. Je dois dire que tous les élèves résistants de la Lande ont appris comme ça à monter une mitraillette. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en aient retouché après, une fois la libération arrivée, mais enfin, à ce moment-là, c'était quelque chose d'indispensable. Et puis, est arrivé le mois de janvier 43. En janvier 43, il y a une loi qui est parue. La loi sur le service du travail obligatoire. Ce texte de Vichy a fait suite à deux expériences qui avaient été lancées avant. Les Allemands, entre-temps, avaient, depuis 41, avaient déclaré la guerre à l'URSS. Or, le front de la français, c'était ça, sur la carte, ça, le front français, c'est-à-dire 200 km. Et quand après, ils se sont attaqués à l'Union soviétique, le front, d'abord, il a commencé par la Pologne. Et au fur et à mesure que les armées allemandes ont avancé, il y a eu un moment, ça allait de Leningrad à Moscou jusqu'à Stalingrad, qui est par là, hein. Là. Donc ça faisait un front, vous voyez la longueur du front. Ce qui veut dire que le nombre de soldats, il a fallu le multiplier par 3 ou 4 ou 5. Ce qui veut dire que donc, les Allemands ont été dans l'obligation de mobiliser tous les hommes valides, je ne parle pas des vieux, mais au moins de ceux qui étaient en âge de pouvoir tenir un fusil, les Allemands mobilisaient tout ce qui était possible pour les envoyer sur le front russe. Mais à ce moment-là, il n'y a plus personne ni dans les fermes ni dans les usines. Alors dans les fermes, on envoyait les prisonniers de guerre. Les prisonniers français, belges ou autres sont allés dans les fermes, surtout. Mais dans les usines, il a fallu trouver du personnel. Alors, on a lancé l'opération, une première opération, on a demandé des volontaires, en disant, vous partez travailler volontairement en Allemagne, vous allez voir, vous aurez des salaires qui sont bien, vous aurez des congés aussi. passerai.
J'en passerai, merci, c'est gentil. J'ai essayé comme vous étiez.
Mais donc, là, il y a... Donc, les Allemands ont mobilisé tout ce qu'ils avaient. Il a fallu qu'ils... Alors, Vichy avait lancé cet appel en demandant s'il y avait des volontaires. Il y a eu très peu de volontaires. Je crois que dans le département de l'Ain, il y en a eu 3 ou 4. Alors, si vous multipliez même par 5, par 30 ou 40 départements la zone libre, à ce nombre-là, ça fait pas beaucoup de monde, hein. Donc il y a eu très très peu de volontaires. Et puis alors, donc il a fallu trouver autre chose. Alors comme on avait beaucoup de prisonniers de guerre qui avaient été faits prisonniers à 40, qui étaient en Allemagne, Vichy a eu une autre idée en disant, si vous partez, travaillez volontairement en Allemagne, eh bien, on va dire, les Allemands libéreront des prisonniers de guerre. Alors, bien sûr, ils ne libéraient pas un pour un, il en fallait au moins 10 pour en libérer un. Et puis, le un qui était libéré, en général, était un prisonnier de guerre qui était ou un blessé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas travailler en Allemagne. Bon, il coûtait plus qu'il ne leur rapportait pas. Donc, il libère. Ou alors, il y a eu quelques cas aussi, où les Allemands ont libéré, sur ordre de Vichy, bien sûr, des gens qui étaient... pro-nazis. Il y avait des Français pro-nazis, hein. Il y en avait, qu'on appelait des collaborateurs après. C'était les collaborateurs de Vichy, donc les collaborateurs des Allemands par personne interposée. Donc il y en a eu quelques-uns. Mais alors, là aussi, échec. Les Français n'ont pas mordu à l'hameçon. Donc pas de départ, ou très peu de départ. Par conséquent, les Allemands voulaient autre chose. Alors Vichy a donc été obligé, et ça a été une loi de fin janvier 1941, qui a décidé, je vous dis 41, c'est pas 41, c'est 43, la loi sur le service du travail obligatoire, c'est-à-dire que tous les jeunes français, valides, bien sûr, partiront obligatoirement en Allemagne, c'est-à-dire que il y a une époque où il y avait le service militaire obligatoire. Il avait été supprimé, bien sûr, à l'époque, puisqu'il n'y avait plus d'armée française, elle avait été dissoute. Et donc, il a fallu... Et donc, ils sont partis. Les jeunes ont reçu un appel, c'est-à-dire qu'on leur a envoyé une convocation, et ils devaient se présenter tel jour, à telle heure, à la gare de... Pour le département de l'Ain, c'était Bourg. Il se présentait donc à la gare de Bourg, tel jour à telle heure, et là, il y avait un train qui était là, qui les attendait. Tout le monde avait l'appel, et chacun montait dans le wagon qui lui était affecté, à la place qui lui était affectée, et partait en Allemagne. C'était l'organisation telle qu'elle était prévue. Et bien entendu, lors du premier départ, nous avons même manifesté devant le train. On l'a empêché de partir pendant... une heure et demie, la police est intervenue et immédiatement tout le monde s'est sauvé, s'est dispersé et le train a pu partir. Mais je dois dire que pendant le temps que la manifestation se déroule devant le train, il y a des jeunes qui étaient montés dans le train, qui ont réfléchi, et ils étaient rentrés d'un côté du wagon, ils sont sortis derrière du wagon, puis ils sont repartis pour rentrer chez eux. Mais ils rentraient chez eux, Vichy avait supprimé les cartes d'alimentation de celui qui devait partir en Allemagne. Et s'il n'y avait plus de cartes d'alimentation, il fallait que la famille vive avec une personne, donc en plus du nombre de cartes. S'il n'y avait plus de cartes, celui-là. Et il mangeait comme les autres. Donc ça posait un problème qui était un problème difficile. Donc il a fallu trouver autre chose. Alors, nous, en tant que jeunes, on n'était pas concerné tout de suite. On avait à l'époque 17 ans ou 18 ans. On n'était pas concerné tout de suite. Mais on savait qu'à terme, l'année suivante, dans 18 mois, on serait concerné. On allait partir. Donc il fallait empêcher que les jeunes partent. Et pour empêcher que les jeunes partent, on a donc organisé au début 1943 une opération en disant, pour empêcher que les jeunes partent, il faut empêcher qu'on les convoque. S'ils ne sont pas convoqués, ils ne peuvent pas partir. Ils ne savent pas qu'ils doivent y aller. Donc, pour empêcher qu'ils partent, pas de empêcher les convocations. Or, il y avait un service spécifique qui s'organisait, qui avait été mis en place par les Vichy, dans toutes les préfectures. Il y avait un service spécial, le service du travail obligatoire. Alors, la première des choses qu'on a faites, nous, c'est de faire rentrer deux copains comme employés dans le service. Tant et si bien qu'on a su comment s'opérait l'envoi des convocations. Et bien, c'est simplement les mairies et les maires de toutes les communes du département qui, chaque année, étaient sollicités, devaient donner la liste des garçons, des jeunes, qui allaient avoir 20 ans dans l'année, ou 19 ans ou 20 ans, et il fallait qu'ils les donnent, et ils envoyaient ça à la préfecture, c'était centralisé dans un service spécial, et là, il y avait le nom de tous les garçons qui allaient avoir 20 ans. C'est donc ceux-là qui allaient partir pour travailler en Allemagne. Quand ? Suivant le besoin du service. Et à partir de là, il y avait donc tout un fichier qui était établi, et dès que Vichy avait des ordres des Allemands en disant « il faut nous envoyer 4000 jeunes », mais Vichy disait « bon, 4000 jeunes, 4000, je peux en prendre dans l'un, je peux en prendre 300, ou 400, et puis j'en prends, il fallait 10 départements, à 400, puis ça faisait 4000, hein. Donc ça faisait 400 jeunes qui allaient partir. Ça faisait presque un prince. Bien. Convocation envoyée, et les jeunes devaient arriver pour partir en Allemagne. Parce qu'on voulait, c'est empêcher qu'on puisse les prévenir. Alors, on a donc envoyé deux jeunes travailler là-bas, qui nous ont dit exactement comment ça se déroulait, et qui nous ont surtout dit où se trouvaient tous les fichiers de départ. Où étaient les stockés. Le service était rue des Casernes, où il y a aujourd'hui l'université de droit, c'était là, c'était un service qui était au rez-de-chaussée. Et on a donc eu Roy et Bollon, qui étaient deux anciens de Lalande. Bollon était ancien de Lalande, pas Roy. Roy était un garçon qui venait de l'extérieur, qu'on avait fait rentrer là-bas, et parce qu'ils avaient terminé, ils avaient dit 19 ans à l'époque, ils avaient donc terminé, ils avaient eu leur bac et tout, tous les deux. Donc ils avaient terminé leurs études provisoirement, et on les a donc fait rentrer là-bas. Et on a organisé une opération en disant, eh bien, un jour à midi, en partant, vous oubliez de fermer les fenêtres en plein. Quand c'est vous de travailler au rez-de-chaussée, c'est facile d'accès, les fenêtres donnent sur la rue, vous oubliez de fermer les fenêtres en plein, nous on arrive à midi et demi, on pousse les fenêtres, puisqu'elles ne sont pas fermées en plein, on saute dedans, dans les bureaux, on savait exactement où étaient les fichiers, puisqu'ils nous avaient fait un plan très précis où étaient situés les fichiers. On récupère tous les fichiers avec une enveloppe de bicyclette, puisqu'il y en avait que des vélos à l'époque. Hein. Il n'y a pas de voiture, pas d'essence. Alors, donc, on met ça dans l'armoire de vélo qu'on a, avec deux gars devant, pour tirer l'armoire, bien sûr. Et bien, on charge, on emmène tout ça et on détruit. On avait un autre copain dont les parents avaient une ferme chemin des Dîmes, où est situé aujourd'hui le collège de la Croix-Blanche. C'était une ferme qui était là. Et les parents donc d'un résistant qui était avec nous exploitaient cette ferme. Et dans cette ferme, il y avait un four. Et là, on piquait les cartes, on les amenait là au four et on les brûlait. Ben, le temps, après, vous allez me dire, mais il fallait refaire des fiches. Puis, oui, mais il fallait le temps de réécrire à tous les maires. Que les maires répondent et tout, c'était plusieurs mois qui étaient nécessaires. Et pendant ces plusieurs mois, les jeunes qui devaient être convoqués avaient le temps de trouver autre chose pour se cacher. Alors, la première opération a échoué. Elle a échoué pourquoi? Eh bien, on avait quand même prévu, avant de faire l'opération elle-même, d'envoyer un copain qui se balade à bicyclette dans le secteur, une demi-heure avant. Puis une demi-heure avant, on a un copain qui est donc allé voir, et il a vu que la police était là, au bout de la rue. Alors il est où là? Pas bon. Il vient nous prévenir, on a dit, on annule tout, annulons tout. Quelqu'un a donné la date et l'heure à laquelle on va intervenir. La police attendait. Donc on a annulé. Puis on a réfléchi en disant, quel est celui, parce que l'opération avait été montée à 6 personnes, il n'y avait pas plus 6 qui étaient dans le coup.
6.
Alors quel est celui des 6 qui a pu donner les noms, qui a pu donner le jour et l'heure à la police? On a fait le tour, on a dit, ça peut être que celui-là. Avec le nom, on a dit, ça peut être que celui-là. Alors on a dit, bon, on va refaire une réunion, sans l'inviter, et puis on va fixer une nouvelle date. Puis on verra. S'il y a encore la police, ça veut dire que c'est encore un autre, c'est pas celui-là. On a fixé une nouvelle date, et là l'opération, la police n'avait personne. Donc l'opération s'est déroulée normalement. Donc, il y en a qui sont sortis dedans. Je dois dire qu'avec Marcel Tenon, on n'y était pas. C'était un jour de semaine. Entre midi et deux, Marcel Tenon avait des cours le matin, avait des cours l'après-midi. C'était pas facile d'y aller. Moi, personnellement, j'étais interne. Je ne pouvais pas y être non plus. Mais on avait participé à l'organisation tous les deux. Et c'était des jeunes de l'extérieur qui étaient des anciens de la Lande, tous. Mais qui étaient sortis du lycée, qui n'étaient plus élèves du lycée à ce moment-là. Et donc l'opération s'est déroulée comme prévu. Les fiches sont allées chez Paubel, rue des Dignes. Le père Paubel, l'après-midi, qui était dans le coup, a ouvert son four et hop, tout l'après-midi, il a brûlé les fiches de départ au ST. Et je dois dire que pendant plus de 2 mois, il n'y a pas eu de départ au service du travail obligatoire. Et ça a permis donc de trouver d'autres solutions pour les jeunes. D'autres solutions de repli pour ceux qui ne voulaient pas y aller. Et puis surtout, ça a montré à la population que quelque chose existait. Mais celui qui avait donné la date la première fois, la police est retournée le voir. En se disant, dis donc, tu nous as donné la date, c'était bon. Ce coup-là, t'as vu, ils t'ont pas convoqué. T'as pas été dans le coup, ce coup-là. Ben, maintenant, tu vas nous donner les noms. Qui c'est qui y était à ces réunions? Et c'est donc là que Marcel Tenon, entre autres, plus ceux qui avaient participé, ont été arrêtés. J'étais sous un faux nom à la réunion. Il a donné mon faux nom. La police a donc cherché au lycée Lalande qui était le Christian en question, qui était leur bras. Christian, ça ne disait rien du tout à personne. Et puis... Alors, la police a dit, oh ben, on va le trouver. Il suffit d'attendre les entrées et sorties du lycée. Il va bien venir. S'il est élève, il doit bien rentrer et sortir. Alors, ils ont mis le gars en question dans une traction avant à l'arrière, ils ont mis sur le siège arrière, puis ils lui ont dit, quand tu le verras sortir du lycée, tu nous le dis, nous on l'arrête. La voiture est venue, puis elle a attendu devant la porte. Les élèves sont entrés, la professeur où ils entraient, puis après ils venaient pour les sorties des élèves, lundi, mardi, mercredi. Au bout de 3 jours, ils ont dit, écoute, tu te fous de nous, c'est pas vrai. Ils n'étaient pas à la Lande, parce qu'on l'aurait vu. Pourquoi ils m'ont pas vu? Parce que j'étais interne. Et les internes, ils sortent pas. Par conséquent, c'est comme ça que j'ai passé à travers. Mais je savais que j'étais grillé, que c'était fini, que je ne pourrais plus être dans la résistance de Bourg. C'était terminé pour moi. Pourquoi ? Ben, les vacances allaient arriver. On arrivait au mois de... C'était au mois de mai. Et 43. Et le bac était au mois de juin. Alors, c'est sûr qu'après, ben, j'allais rentrer. J'allais être dans... faire comme tout le monde. J'allais pas rester fermé chez mes parents. J'allais sortir. Et je risquais de rencontrer le gars en question dans la rue. Puis, à ce moment-là, il allait dire à la police, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, je savais que j'étais grillé. Et la résistance, les responsables régionaux, nationaux, m'avaient informé en me disant, tu restes jusqu'au bac. Le bac était le 16 et 17 juin, 43. Tu restes jusqu'au bac, et après le bac, il faudra quitter la région. On va te donner une fausse carte d'identité, tu partiras. J'ai dit où ? Je ne sais pas où. J'ai su après que je devais partir à Périgueux pour remplacer justement le responsable du secteur, parce qu'avec Marcel Tenon était responsable départemental des jeunes de la résistance. Parce qu'on en avait à la langue, la résistance, on en avait aussi au lycée de Nantua, on en avait dans un établissement... similaire à Belay, et puis il faut dire que tous les copains d'ici, et surtout les Normaliens qui étaient de l'extérieur, avaient créé, eux, des groupes de résistants dans leur commune. Donc, Marcel Tenon était responsable départemental, j'étais son adjoint. À son arrestation, j'ai pris la relève, mais ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Et puis, est arrivé le bac, j'ai passé le bac, le 16 et 17 juin, et le 18 juin, je l'ai vu l'autre jour, j'ai vu l'enregistrement qui a été fait de mon arrestation, c'est moi qui l'ai fait. Le 18 juin, donc le lendemain du bac, je suis descendu faire un tour en ville le matin pour voir un petit peu si le bac était fini. Je suis descendu en ville et puis j'avais vu des copains qui m'ont dit oh, la police, il y a de la police à Caria. Caria, à l'époque, était au vieux Caria, où il y a eu le collège Amiot après. La police était là-bas à Caria. On dit, tiens, la police est à Caria, mais on ne sait pas pourquoi. Ah bon. J'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi Caria ? Parce que Caria avait des élèves plus jeunes que Lalande. Lalande avait allé jusqu'au bac, donc jusqu'à 17-18 ans, alors que Caria s'arrêtait à 16 ans. Donc c'était bien plus jeune. J'ai dit, tiens, Caria, c'est tout. Et puis vers midi, un peu avant midi, j'arrive place Edgar Quinet, donc à deux pas d'ici, et je rencontre notre professeur d'éducation physique qui était M. Cochet. Quand vous allez en éducation physique, vous allez... en éducation physique, oui. Et puis même si vous allez manger au restaurant à midi, le patio qui est en bas s'appelle Marcel Cochet. Il y a encore une photo. Eh bien, Marcel Cochet était notre prof d'éducation physique. Et je le trouve place Edgar Quinet. Il me dit, il m'attrape, il me dit, dis donc, tu sais qu'il y a de la police de Vichy qui est là ce matin, ils sont après chercher, je veux savoir, ça m'ennuie de rentrer chez moi, s'ils sont chez moi, j'en sais rien. Il me dit, tu peux pas les voir chez moi. Et c'est là que je lui ai dit, mais monsieur, vous habitez où ? Je sais pas où il habitait. D'autant plus que j'étais interne. Je savais d'où venait son épouse parce que je connaissais ses beaux-parents qui habitaient près de mes parents, mais le reste, je ne savais pas la suite. Et il me dit, j'habite là, la petite rue là qui est là, c'est la rue Edgar Quinet. Il me dit, la deuxième porte à droite, il me dit, tu vas dans la cour, tu vas vers un couloir qui débouche sur une cour derrière, tu lèveras le nez en l'air, tu vas arriver sur le deuxième étage, il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout, tu viens me le dire. Effectivement, la cour était absolument vide, personne. Il n'y avait personne dans les montées d'escalier, qui étaient des montées d'escalier extérieures, pour accéder dans les appartements. Donc je lui ai dit, non, il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Et il est donc rentré chez lui, tranquille. Et moi, je suis remonté chez mes parents, à pied, bien sûr. Et j'ai monté la rue de la République, place Edgar Quinet, la rue de la République. En haut, j'ai tourné à gauche, un petit bout de boulevard Victor Hugo, et en arrivant boulevard de Brou, pas très loin de chez mes parents, puisqu'ils habitaient face à l'Hôtel Dieu, eh bien, j'ai quand même donné un coup d'œil en disant, s'il y a une voiture vers chez mes parents, je ne vais peut-être pas rentrer. J'irai jusque chez ma tante qui habite rue de la République, puis je lui demanderai si elle ne peut pas aller voir ce qui se passe chez mes parents. Et puis je suis arrivé au boulevard de Brou, il n'y avait absolument rien, mais le boulevard était vide. Je vous ai dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'essence, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de voiture, très peu de voitures qui roulaient. Et puis les gens qui rentrent à la bicyclette, ben, les bicyclettes, ils les rentraient chez eux, ils ne les laissaient pas dans des trottoirs. Donc le boulevard de Brou était vide. Je suis arrivé chez mes parents. Au rez-de-chaussée, mon père avait son magasin dont de la bourrellerie, de harnachement pour les chevaux de l'époque, et la police était là, mes parents avaient des bras en l'air, mon frère et ma soeur plus jeunes que moi, de même, mon frère aîné qui s'était lui évadé d'Allemagne, n'était pas rentré ce jour-là à midi, une chance, sinon il l'aura arrêté, sûr, et j'ai donc été arrêté. Donc il était arrêté, mis au cachot par la police de Bourg. C'est la police de Bourg qui m'a arrêté sur ordre du préfet de l'époque. Et je me suis posé la question, pourquoi on m'a mis dans un cachot au commissariat de police. C'était midi, midi et demi. Et puis c'était aux environs de 14 heures. J'avais pas de montre. En plus, j'étais dans le noir. Je ne voyais rien. C'était. J'entends qu'on vient, on fait tourner les clés, on ouvre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois arriver? La police qui en tenait un autre. À deux, ils ont. C'était Marcel Cochet, le professeur d'éducation physique, qui a été arrêté. Et alors, bien sûr, il a été surpris de me voir, mais moi, j'ai été surpris de le retrouver aussi. Il me dit, mais t'es là? Ben j'ai dit, eh oui, j'étais arrêté en arrivant chez mes parents. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi? Ben j'ai dit, j'en sais rien, j'ai vu personne. La police m'avait arrêté, on m'a pas dit pourquoi. J'ai demandé pourquoi, mais on m'a pas répondu. Alors j'ai dit, je suis là, je ne sais pas. Puis je lui ai dit, et vous, vous êtes arrêté? Mais il me dit, je sais pas, on m'a rien dit non plus. Je suis arrêté. Et puis c'est. Dans l'après-midi, quand on nous a transférés, une première fois au palais de justice pour être interrogés, puis ensuite une deuxième fois en fin d'après-midi pour nous emmener à la préfecture, où il y avait le service des relations franco-allemandes, où des spécialistes de Lyon étaient venus et nous ont tabassés pour nous faire parler, eh bien, c'est là qu'un policier de Bourg m'a dit, en douce, il m'a dit, c'est Huppert qui t'a dénoncé. Ben oui, il me dit, c'est Huppert qui t'a dénoncé. J'ai dit, mais pourquoi? Il s'est fait prendre hier soir au couvre-feu, et pour éviter que ses parents... Ce matin, il est revenu au commissariat, et puis il a dit ce matin à la police qui était là, et qui est donc allé à Caria après, puisqu'il était élève à Caria, lui, à l'époque, ils lui ont dit, il a dit, si vous ne dites rien, mes parents... Je vous donne le nom d'un résistant. Moyennant quoi? Ils ont dit, ben, on est d'accord. C'est là qu'il a donné ton nom. Parce que tu lui as donné des journaux clandestins. Ah ben, j'ai dit, bon, ben, je savais comment tenir. Je savais qui m'avait dénoncé et pourquoi j'étais dénoncé. C'est parce que je donnais des journaux clandestins à Huppert. Voilà. Mais je dois dire que Huppert, je ne l'ai jamais vu. Parce que Huppert, ayant dénoncé quelqu'un, on ne l'a jamais revu après, auprès de moi. Parce qu'il savait bien que ça n'allait pas se passer tout seul. Alors, c'est tout. Et ce qui devait arriver est arrivé. Avec Marcel Cochet, lui a été arrêté parce que. Piodard venait d'être arrêté également. Paul Piodard venait d'être arrêté. Et on voyait très souvent Marcel Cochet chez Piodard. Ils ont dit du fait que Cochet, professeur d'éducation physique, Pioda, marchand de vitres, il n'y a pas de problème commun. Alors s'il y va très souvent, c'est qu'ils vont parler d'autre chose que de vitrerie. Alors, donc Marcel Cochet a été arrêté pour ça, et il a fallu qu'il apporte des précisions sur ce qu'il allait faire chez Pioda. C'est donc là que Marcel Cochet a été arrêté et condamné. Avec Marcel Cochet après, on nous a donc mis sur ordre du préfet à la prison de Bourg. On a été en prison. On passe maintenant rapidement, puisqu'on était mis à la prison. À titre documentaire, le Houpert qui m'avait dénoncé, j'ai voulu savoir, quand ma mère est venue me voir la première fois, je lui ai dit, dis tout de suite aux gens de la résistance que Houpert, c'est lui qui m'a dénoncé. Par conséquent, Houpert, il faut surtout ne rien lui dire, quoi qu'il arrive. Laissez-le tomber, sûrement, hein. Ne lui donnez rien, surtout pas de journaux de résistance, mais ne lui dites rien. Ma mère a fait la commission, elle ne le connaissait pas, Houpert. Il était en classe avec mon plus jeune frère. C'est dans la même classe. Alors, j'ai dit attention, hein, méfiez-vous de Houpert. Et puis, quand je suis rentré, j'ai demandé des nouvelles de Houpert. Houpert, comme personne n'avait rien dit, personne n'a bougé dans la résistance, Houpert a réussi à rentrer au maquis de là, bien qu'il n'ait pas d'âge à y aller. Il était très très jeune. Mais Houpert avait un gros avantage. C'est que c'est des gens qui arrivaient de Lorraine. Et le père Houpert avait déclaré à tout le monde, on a été expulsé de Lorraine. C'est-à-dire qu'on les avait mis dehors de la Lorraine, qui était devenue allemande, et on les avait donc réexpédiés ici à Bourg. Ils habitaient Josserand à l'époque. Je suis allé une fois chez lui, pour ça que ça où il habitait. Et Houpert, donc habitant Josserand, parents. Eh bien, à ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce que... Alors, en rentrant, j'ai dit, Houpert, Houpert, comme personne n'a bougé, Houpert a continué dans la résistance, mais plus avec les jeunes qu'il avait, parce qu'il savait que là, il ne pouvait plus, mais avec d'autres résistants. Il a même réussi à rentrer au maquis de lin, et il était au PC du colonel Roman Petit qui commandait les maquis de lin. Tant et si bien qu'il était au courant avant que toutes les opérations se réalisent. Puisque c'est le colonel Roman Petit qui commandait les maquis, il disait demain, attaque à tel endroit. Houpert, qui était là avec lui, savait qu'il y aurait attaque demain à tel endroit. Et c'est ainsi que Houpert pouvait renseigner les Allemands. Parce que Houpert a renseigné les Allemands. Mais moyennant quoi, les Allemands le renseignaient sur ce qu'ils allaient faire. Tant et si bien que lorsque le PC du colonel Ron Petit a été attaqué, j'étais arrêté depuis longtemps à ce moment-là, puisque les maquis de lin ont commencé à exister quand j'étais arrêté à peu près, ça coïncide en date, à peu de choses près. Eh bien, lorsque les PC des maquis de lin ont été attaqués par la Wehrmacht et les SS, ils ont été, plus de la moitié du PC du colonel Roman Petit a été tué à la ferme de la Montagne au-dessus de Saint-Jean-le-Vieux. Eh bien, ça c'était au début 1944. Je ne me rappelle pas si c'est un... Enfin, j'étais plus là, moi, hein, à l'époque, en décembre 1943 ou janvier 1944, lorsqu'il y a eu l'attaque de la ferme de la Montagne, Houpert, comme par hasard, ce jour-là, était en permission. Donc, il risquait rien. Mais bien sûr, les Allemands l'avaient prévenu en disant, on va attaquer le PC. Alors, il a dit, bon, moi, j'y serai pas. À début, il risquait rien. Il restait chez lui, à Josserand. Et deux, trois fois comme ça, il a passé à travers. Mais Houpert s'est fait prendre après. Il s'est fait prendre, je crois, d'après ce que j'ai pu savoir après, parce que j'ai essayé de me renseigner quand même, je crois qu'il a été arrêté le 14 juillet 1944, en remontant justement au maquis, il rejoignait le PC du colonel Laurent Petit, et c'est là qu'il s'est fait prendre par un mot qui a dû lui échapper. Il a dit fichu, parce qu'il n'avait pas le bon mot de passe, parce que le moment où il était parti, le moment où il est remonté au maquis deux jours après, le PC du colonel Laurent n'était plus là, l'unité qui était là n'avait pas le même mot de passe. Celui qu'il avait, par conséquent, il n'avait pas le bon mot de passe pour aller au bon à cet endroit-là. Et il s'est donc fait prendre, il a été, bien sûr, questionné, et il a avoué lui-même qu'il renseignait les Allemands sur tout ce que les maquis de l'Ain faisaient et allaient faire. Il a porté les renseignements à son père, qui habitait Josseron. Lui, il n'allait pas plus loin. Et c'est le père qui travaillait aux impôts à Bourg, à l'époque, qui allait de Josseron à Bourg aux impôts, mais qui allait surtout à la Kfell de gendarmerie et à la commandanture pour renseigner les Allemands sur tout ce que les maquis allaient faire. Tant et si bien que le père ou père et le fils ou père ont été arrêtés en juillet 1944 et ont été fusillés tous les deux. Et je dois dire, d'après un qui était au peloton d'exécution que je connaissais bien, un copain, il m'a dit, ils sont morts en criant « Heil Hitler » tous les deux. Donc c'était des gens, des hitlériens purs et durs. Alors c'est lui qui est. Donc voilà la dénonciation. Je vais passer très rapidement à la déportation.
Juste savoir si vous avez déjà peut-être des questions, mais on va prendre une question. Vous souhaitez demander quelque chose à M. Morin, là, par rapport à ce qu'il a dit.
Ça, c'est la résistance. Ça concerne surtout la lampe. Alors, je vous ai assommé à ce point-là.
Donc, je crois que c'est important, évidemment, maintenant, d'évoquer votre déportation.
Alors, je vais évoquer la déportation, voilà, mais très rapidement, parce que ce qu'on peut dire de la déportation... Donc, on a été emprisonné avec Marcel Cochet, d'ailleurs, on s'est suivi d'un bout à l'autre, hein. Tout le long. Il y en a d'autres de l'un qui étaient avec nous, bien sûr, après, qui nous ont rejoints. Que soit, on était emprisonnés à Bourg jusqu'au mois d'octobre. En octobre, on nous a transférés à Lyon, à la prison Saint-Paul. De là, à la prison Saint-Paul, on nous a fait passer devant un tribunal spécial qui siégeait à Lyon. Un tribunal spécial qui jugeait justement les résistants. Les peines allaient d'un an de prison à la peine de mort. Juste avant moi, il y a un jeune qui est passé, qui a été condamné à mort et qui a été guillotiné à Lyon, à la prison, parce qu'il avait tué un gendarme de Vichy. Et bon, donc on est allé à Lyon. De Lyon, on a été condamné au tribunal spécial. Ensuite, de là, on nous a transféré à Aix, dans Lot-et-Garonne, qui était une maison centrale où il y avait... Oui, on avait fait le vide. Toute cette maison centrale a été vidée de ses occupants et on n'a mis que des résistants dedans. Donc on s'est retrouvé 1200 à Aix, dans Lot-et-Garonne, c'est à côté d'Agen. C'était à une trentaine de kilomètres d'Agen. C'était une maison centrale. On a essayé de s'évader en février 1944. On a échoué, de peu, mais enfin on a échoué, parce qu'on attendait l'appui des maquis du secteur, qui nous avaient promis leur appui le jour où rentrait l'évasion. Ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas eu les moyens de se déplacer, etc. Donc on s'est retrouvés tout seuls, et... Le peu d'aide qu'on attendait de l'extérieur, ben on ne l'a pas eu, et bien ça échoue. On a eu des tués dans la tentative, dans la rébellion et la tentative d'évasion. On a eu des tués, puis on a eu des fusillés aussi. Des copains, entre autres tous ceux qui avaient été blessés dans la bataille, parce qu'on s'est battu contre la police française. Puis après la Wehrmacht qui est arrivée, puis il y a une division SS qui est arrivée aussi. Eh bien, on s'est battu. Mais on a eu des morts et des blessés, et donc de là, après, eh bien, on nous a... Alors là, on a été fermés à AES. Et puis de là, on nous a transférés ensuite, au mois de fin mai, on nous a transférés à Compiègne. Compiègne, c'était destination l'Allemagne. Et j'ai été arrêté le 18 juin 1943. Et le 18 juin 1944, j'y suis pour rien, eh bien, on nous a mis dans le train qui nous emmenait en déportation. Il nous emmenait en Allemagne, on ne savait pas où, on ne savait pas quoi, ni pourquoi, ni comment. Et c'est de là qu'on est monté à 120 par wagon, dans des wagons à bestiaux, bien sûr, qui n'avaient pas de fenêtres, ni rien, ni pour s'asseoir, ni rien. On est monté à 120 dedans, sans rien à boire, sans rien à manger. On nous a monté là-dedans et on a fermé les wagons à bestiaux, à clé, et avec des SS sur tous les trois wagons bestiaux, il y avait une plateforme avec des SS dedans, et puis des mitrailleuses, etc. Au cas où. Et puis, on est donc parti destination de l'Allemagne, et deux jours après, les wagons ont été quand même ouverts trois fois dans le trajet, une fois pour nous donner à chacun un verre d'eau, et puis une autre fois pour nous donner un... On a une bricole, enfin, à manger, rien du tout. C'est tout ce qu'on a eu. Et deux jours après, on est arrivé, les wagons se sont ouverts, c'était midi, je me rappelle, c'était à peu près midi, et se sont ouverts sur une gare qui s'appelait Dachau-Bahnhof, c'est-à-dire la gare de Dachau. Dachau, c'est ce qu'on appelle communément Dachau, hein, parce qu'en allemand, ça se lit, le U prononce OU. Ça fait Dachau. Puis le CH fait R. Hein. Alors donc, c'était chaud. Et on est donc arrivé là. Et à partir de là, ben, la première des choses qu'on a faites, on nous a transférés à pied, bien sûr, de la gare au camp, avec des coups. On était habillés, comme on disait, habillés à la prison, bien sûr. On n'avait rien. On nous avait fait laisser toutes nos affaires en prison à Est, déjà. On nous avait dit tout laisser, tout abandonner. Et ensuite, donc, on est arrivé comme ça là-bas. Et puis, la première des choses, en arrivant à Dachau, ceux qui nous accompagnaient, le SS qui nous a, les SS qui accompagnaient, mais celui qui était vers, en face de nous, au fur et à mesure qu'on approchait du camp, il y a tous les camps de déportation en Allemagne, tous les camps de concentration avaient à peu près un portique d'entrée similaire. Il y avait un joli portique d'entrée. Et d'une façon générale, alors là, Dachau, disons que ça correspondait pile, parce qu'on arrivait, vous arrivez en face de ce portique, en face du portique, et on avançait, bon, je me mets dans le même sens que vous, on avançait comme ça, le portique devant nous, et je me rappelle, le SS qui était là, à côté de nous, parlait français, il dit, vous entrez là, vous sortez là-bas. Et le portique, une grande place qui était là, qu'on voyait avec des baraques sur les côtés. Puis au fond, il y avait une baraque en travers, qui paraissait ne pas être en bois, mais être en dur. Et puis, il y avait une cheminée au-dessus qui fumait. On ne savait pas ce que c'était. On a vu après, quand on a dit, mais on va sortir là-bas pour... C'est les copains qui étaient là qui ont dit, oui, c'est le crématoire qui est là-bas. C'est-à-dire, c'est là où on brûle tous les gars. Donc, on entrait là, on sortait là-bas, on fumait. C'était, voilà, l'accueil du camp. Puis ensuite, on nous a appelés, au fur et à mesure qu'on arrivait, il y avait un appel, et on était mis par paquet, et on est allé vers une salle, un grand bâtiment, et alors là, on nous a fait déshabiller de la tête aux pieds. On vous a dit, vous mettez toutes vos affaires de côté. Ceux qui ont des bijoux veulent bien les donner. Alors, nous, sortant de prison, on n'avait rien. Mais il y avait des gens qui étaient avec nous, qui nous avaient rejoints à Compiègne, qui, eux, avaient été arrêtés peut-être 8 jours avant ou 15 jours avant. Donc, c'est des gens qui avaient été arrêtés. Celui qui avait une bague, qui était marié, il avait une alliance, mais il l'avait. Il l'avait proposé avant. Eh bien, donc, ils ont récupéré les bijoux, mais ils ont surtout demandé à ceux qui avaient des bridges en or. Vous savez ce que c'est qu'un bridge? C'est des dents, des fausses dents, avec un support en or. Ceux qui en avaient, fallait le dire. Je dois dire que J'ai pensé 2 minutes, je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis pas. J'en ai un, j'ai toujours. J'ai deux d'en haut. Ça se croit pas tellement, mais j'ai un bridge en or qui est en haut. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je dis pas. Je dois dire que je ne l'ai pas dit par peur. Pourquoi? Ben, parce qu'en face de moi, il y avait un gars qui était un gars habillé en rayé. On ne savait pas ce que ça représentait, le rayé, nous, à l'époque, quand on arrivait. On était tout nus. On nous avait tondu la tête, les pieds, le reste, tout. Eh bien, j'ai vu un gars en face de moi qui était habillé en rayé, avec une paire de tenailles. Puis j'ai vu un copain qui a dit, moi j'en ai un de bridge. Oh, le gars lui dit, fais voir, il ouvre la bouche, les tenailles, hop, enlevées. Quand j'ai vu ça, j'ai eu la trouille. J'ai dit, bon. Je suis passé comme ça. Ils l'ont pas vu. Et je l'ai gardé tout le temps. Je l'ai ramené, c'est toujours le même. Je l'ai fait sceller 2 fois, mais on part à part ça. Voilà. Et puis à partir de là, on nous a emmené dans une salle de douche. Mais avant, on a fouillé pour voir que personne n'ait gardé quoi que ce soit sur lui. Surtout dans les bijoux. Alors, c'est pour ça qu'on regardait la bouche. Mais ensuite, on vous mettait le dos derrière, hein, pour voir si vous ne l'aviez pas caché là. Et le gars qui faisait ça n'était pas très délicat. Hein. Je ne sais pas si j'avais des grosses mains ou quoi, mais je dois dire que ça faisait mal. Ça a fait mal. Tous les gars hurlaient. On a tous hurlé en passant. Hurlé. Et la douche, puis en sortant de la douche, eh bien, on nous a donné le costume rayé des déportés. C'est-à-dire qu'on a tous eu un costume. Donc, il y avait des piles de costumes, et en fonction de la taille approximative du gars, on prenait dans ce paquet-là ou dans celui-là, et on tombait sur... Le premier costume que j'ai eu, moi, c'est un costume qui avait déjà été porté au moins par 2 ou par 3 avant, parce qu'il restait encore des traces de peinture sur lesquelles on avait marqué ses numéros. À ce moment-là, moi, ils avaient été nettoyés, je pense, avec de l'essence ou je ne sais quoi, pour enlever la peinture, mais enfin, il restait suffisamment de traces pour que ça se voit encore. Et puis, de là, eh bien, en sortant de la douche, c'était une douche commune, hein, on était, je ne sais pas, 200-300 à la douche en même temps. Hein. C'est une grande salle, et puis l'eau tombe d'en haut. Hein. C'était ce qui devait servir, si Hitler avait gagné la guerre, c'est ce qui devait servir de chambre à gaz dans tous les camps de concentration. C'est-à-dire qu'on allait amener les déportés qui restaient encore vivants à ce moment-là, ici, on allait les gazer et les brûler au crématoire. Plus de traces de la déportation. Il ne devait rester aucune trace. À Auschwitz, a marché dès le début, parce que là, on voulait détruire les gens. Là, nous, où on nous envoyait, c'était pas pour nous, c'était pour nous détruire, mais au travail, c'est-à-dire qu'on devait apporter du travail, faire du travail pour le Grand Reich avant. Donc là, on est habillés, et en même temps, on nous a donné, il y avait un bureau qui était là, et en même temps, on nous donnait les plaques, qui étaient notre nouveau nom. Notre nom, on le perdait, on devenait un numéro. C'est-à-dire que, après, ni vu ni connu, hein, les numéros, ça s'envole. Hein. Il n'y a pas de filiation dans les numéros. Quand vous appelez votre nom, vous avez une filiation, vous avez des parents qui vous ont donné leur nom, etc. Et là, les numéros, il n'y en a pas. Donc à partir de ce moment-là, je me suis appelé Drei und 70, Sieb Ar und Arzig, c'est-à-dire 73 788. Et j'avais une plaque avec un triangle rouge, parce que j'étais un politique, c'est-à-dire un ennemi du régime, et sur lequel il y avait un F au milieu du triangle, ça veut dire Franzose. J'étais français, et je m'appelais 73 780. Vous vous rendez compte pour tous ceux qui ne savaient pas parler allemand, on leur a donné leur nom comme ça. Ça veut dire que quand on l'appelait, il fallait qu'il réponde immédiatement. Et quand on comprend... Moi, j'avais fait de l'allemand, ici, avec M. Laplanche, hein, qui était prof à l'époque. J'avais fait de l'allemand. Mais je le parlais, je le comprenais. Ça, j'en ai fait 3 ans, 4 ans. On a déjà acquis un certain nombre de choses. Moi, mon nom, je l'ai retenu tout de suite. Quand j'ai eu le numéro, je savais le lire en allemand. Et la première des choses qu'on a faites avec les copains, c'est de leur apprendre leur nom. Tout de suite. Pour éviter qu'ils reçoivent des coups quand on les appelait. Parce que quand on appelait son numéro puis qu'il ne répondait pas, immédiatement, parce qu'eux voyaient le numéro, ils tapaient dessus. Et lui, il ne savait pas pourquoi. Il ne comprenait pas. Donc on a appris les noms à tout le monde. Ça a été la première des choses qu'on a faites. Et puis on est resté quelques jours à Dachau. En attente, parce qu'il faut savoir que les camps de concentration sont près des grandes villes en général. Et Dachau avait été créé, c'est le premier camp qui a été créé par Hitler, quand il a pris le pouvoir, c'était pour mettre les ennemis du régime. Donc c'était près de Munich, à côté, puisque c'est à Munich que le putsch avait eu lieu, et Dachau était créé là. Mais avec le temps, eh bien, les Allemands étaient bien moins nombreux, il y en avait quand même. Il y avait surtout les communistes allemands qui étaient encore là à l'époque, hein, qui avaient été arrêtés. Mais ensuite, on a fait venir les autres. Mais les autres, on ne les avait pas fait venir pour les mettre en prison comme les Allemands. On les a fait venir pour les faire travailler puis les faire crever au boulot. Donc, immédiatement, on est resté une dizaine de jours à Dachau. Et de là, on est parti dans un commando de travail. Les commandos de travail étaient autour du camp central. On arrivait au camp central, on avait son nouveau nom, on avait son nouvel habit, et de là, on partait dans un commando de travail. Et le commando d'Alac, qui était entre Dachau et Munich, de Dachau à Munich, il y a 25 km à peu près, eh bien, Alac est entre les deux. C'est donc la banlieue de Munich, et Alac, qui est un commando, on était quand même 12 000 dedans, c'est après un petit machin, hein. 12 000, travaillaient essentiellement chez BMW, ils fabriquaient des moteurs d'avion, des moteurs de V2, de V1 et V2, hein, des moteurs pour les fusées, et puis, d'un autre côté, servaient aussi à construire des usines, parce qu'ils ont construit des usines aussi, donc il fallait des gens qui travaillent le ciment, etc. Et puis, ils allaient aussi surtout déblayer Munich, qui était bombardé toutes les nuits. À l'époque, Munich était bombardée toutes les nuits, et il fallait donc rétablir les circulations, donc il fallait déblayer vite, enlever tout de suite les gravats et tout, parce que c'était des déportés qui... La déportation, je pense qu'on vous en a déjà parlé un certain nombre de fois, c'était 12 heures de travail tous les jours, une semaine de jour, une semaine de nuit, 6 heures du matin, 6 heures du soir, les appels à n'en plus finir, et le matin en partant, et le soir en rentrant. C'était... un manque de nourriture absolue, parce qu'on touchait de l'eau chaude quelquefois, elle était chaude, et même quelquefois elle était plus chaude du tout quand on arrivait, en face du bouteillon où elle était. Donc, nourriture, des soins, aucun. C'était pas question d'avoir une brosse à dents pour se laver les dents, il n'était pas question d'avoir un bout de savon pour se laver. Le matin, quand on se levait à 4 heures, il y avait l'appel à 4 heures, et bien pour travailler à 6 heures, et bien il y avait un endroit, il y avait une espèce de grand bac qui était presque la valeur de la salle, là, ici, et les déportiers qui avaient couché dans le bac d'à côté venaient là, autour, prenaient de l'eau, on se mettait de l'eau sur la figure, c'était de l'eau sale la plupart du temps, hein, et c'était tout ce qu'il y avait. Je ne me suis pas lavé les dents pendant un an. Je ne me suis pas lavé pendant un an. Je le dis parce que c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour tous les déportés, la même chose. Hein. Alors, bien entendu, immédiatement, il y a eu, ce qui doit arriver dans ces cas-là, il y a eu la dysenterie qui a tué beaucoup de nos copains au début, en arrivant. Et je me rappelle, quand on était à Dachau, quand on a fait l'appel pour ceux qui allaient partir à Halak, qui était considéré comme le camp disciplinaire de Dachau. Parce que c'était le camp où on travaillait beaucoup. Je me rappelle Paul Pioda, qui était là, vient me voir, puis il me dit, ben, dis donc Paul, t'as pas de chance, hein. Tu pars là-bas, c'est un truc, tu sais, c'est le commando disciplinaire, hein, t'as ben pas de peau. Puis Pioda ne partait pas, n'est pas venu avec nous, pourquoi? Il avait un édème qu'il avait pris, où, comment? Personne n'en sait rien. Il était devenu énorme, en moins de 24 heures. Énorme. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas emmené, il ne venait pas avec nous. Mais, nous, on est rentrés, lui n'est pas rentré. Pourquoi? Je l'ai jamais revu après. Ce que je dis, c'est moi qui le pense. Moi, Marcel Cochet, qui j'avais été arrêté, était avec moi, il est venu avec moi, il a suivi à Halak. Tous les copains qu'on avait à la prison de Bourg, la plupart sont venus à Halak avec moi. Pioda est resté là, tout seul, dans les gens de la région. Et quand il est allé dans un autre commando, qui, à mon avis, n'était ni pire, ni moins, hein, ni moins dur que les autres, parce que, à mon avis, tous les commandos se valaient, hein, eh bien, il s'est retrouvé tout seul. Alors que, en ce qui nous concerne, et ça je le dis tout le temps, ce qui nous a sauvés, ça a été notre solidarité entre nous. Cette solidarité, on l'avait apprise, nous, à Hesse, lorsque j'étais en prison à Hesse, dans le Lot-et-Garonne. Quand à Hesse, il y avait 4 préaux. Donc on était 300 par préau. On vivait ensemble, 300. Eh bien, dans le préau, quand un recevait un colis, ce colis, on recevait des parents. Mes parents m'envoyaient des colis de nourriture. Ils se débrouillaient par-ci, par-là pour avoir de la. Et je me rappelle, entre autres, pour Noël 1943. Eh bien, la boulangère de mes parents, qui habitait boulevard de Brou à l'époque, Madame Dichon, eh bien, elle m'a envoyé un colis, à mon nom, bien sûr, vous voyez bien qu'il a un nom, elle me l'a envoyé à mon nom, un colis, avec des flûtes de pain, il y avait même deux couronnes de brioche dedans, qu'elle avait faites spécialement pour nous, qui étions en prison. Elle risquait, hein, elle risquait gros, parce que, elle a mis son nom quand même pour l'expédition. Hein. Or, soutenir aussi ostensiblement des gens qui étaient contre le régime, c'était pour elle, elle avait pris des risques, hein, de gros risques. Eh bien, quand ça, les colis arrivaient à S, on le recevait, on signait, et immédiatement on le mettait à la communauté. Et tout était partagé. Eh bien, cette solidarité qu'on a connue, qu'on avait mise en place, eh bien, on l'a ensuite transmise à d'autres, à ceux qui avaient été arrêtés, entre autres, et qu'on a retrouvés, ceux qui nous ont qu'on a récupérés à Compiègne, qui sont venus avec nous, eh bien, on leur a donné ce virus. Et à Halak, toutes les fois qu'un copain était en difficulté, eh bien, on avait un bout de pain qui était gros comme ça tous les jours. Mais on a donné la valeur d'un doigt, chacun, mais quand il y en a 20 qui donnent un doigt de pain, ça fait un morceau de pain. Et le copain qui était en difficulté, on lui donnait ce morceau de pain. C'était physiquement, c'était bon, mais moralement aussi c'était bon. Parce qu'il savait que les copains ne l'oubliaient pas et qu'ils étaient avec lui, qu'ils allaient l'aider. Et on a beaucoup de copains qui étaient en difficulté, sont repartis. Et c'est comme ça qu'on en a sauvé beaucoup. Et on a été sauvés nous-mêmes, hein. Parce que c'est pas toujours les mêmes qui donnent. Il y a un jour où vous aussi, vous perdez le moral. Ça arrive aussi. Mais vous savez que les copains sont là pour vous aider. Eh bien, je dois dire que c'est une chance qu'on a eue, nous, c'est de pouvoir justement s'entraider les uns les autres. La solidarité a joué. Et puis, vous allez me dire, c'est pas grand-chose à bout de pain, mais quand on en a point, par rapport à celui qui en a un petit bout, c'est plus. Et puis moralement, c'est important. De savoir qu'on ne vous laisse pas tomber, que les copains sont là pour vous aider. Et bien, ça aussi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est comme cela qu'on a réussi à tenir pendant des mois, surtout des mois d'hiver. On a eu un mois de février à Halak, où la température la plus haute a été moins 21, la température est allée de moins 21 à moins 28. Pendant tout, du 1er au 28 février. Tant et si bien qu'à partir du 10 février, l'usine BMW où je travaillais, puisque je travaillais chez BMW, j'ai eu cette chance de travailler chez BMW. Encore pourquoi ? Parce que j'avais fait de l'allemand. C'est l'allemand qui m'a servi, encore une fois. Eh bien, chez BMW, eh bien, les trains, à cause du froid, ne pouvaient plus circuler, donc ils ne pouvaient plus amener de charbon. Or, il y avait une centrale électrique qui faisait tourner l'usine, et n'étant plus alimentée en charbon, eh bien, elle est obligée de s'arrêter. Tant et si bien que l'usine s'est arrêtée. Elle a été arrêtée une douzaine de jours avant que je puisse tout remettre en route pour alimenter l'usine. Eh bien, pendant ce temps-là, moi j'ai travaillé à Dikerov, c'est-à-dire les criblés du sable, par ces températures, et quand on n'a rien dans le ventre et qu'il fait un froid de moins 25 dehors, je dois dire qu'on n'avait rien sur le dos non plus. Hein. Eh bien, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de morts à ce moment-là. C'est ainsi qu'on... Mais avec la solidarité, on a réussi à tenir. Et c'est au mois d'avril que tous les camps des environs, enfin les camps des environs qui étaient à 300-400 km, hein, au fur et à mesure que les Russes avançaient d'un côté, les Américains et les Anglais de l'autre et les Français de l'autre avançaient, bien les camps qui étaient à l'est et à l'ouest et au nord se sont repliés. Et on a vu arriver, nous, à côté du camp d'Halak, on a construit, c'est des gens de Halak, du commando d'Halak, qui ont construit deux autres camps à côté, un camp pour des femmes juives, et puis un camp pour des hommes qui étaient rapatriés d'ailleurs. Et on a eu donc deux camps qui sont créés à côté du camp d'Halak, où sont arrivés des déportés, qui étaient des déportés mourants, parce que et c'est des déportés qui devenaient de faire 200 ou 300 km à pied. On avait accompagné, les SS avaient accompagné à pied, plus de la moitié était mort en route, mais les quelques-uns de rescapés sont arrivés là. Eh bien, ils sont arrivés, mais peu de temps, donc avant la libération. On a eu cette chance, c'est que nous, on était dans la partie la plus au sud de l'Allemagne, presque à la frontière autrichienne, puisque Munich est près, très près, et le Tyrol, Munich, hein, près. Et le Tyrol, c'est autrichien. Eh bien, donc, c'était vraiment la fin de la guerre. Et quand on a été libéré le 30 avril, à Halak. Et il y a une photo, d'ailleurs, sur laquelle je suis. J'y suis pour rien. Hein. C'est quand les Américains nous ont libérés, je logeais dans un... Là-bas, une des baraques qui était proche, très proche des barbelés électrifiés, quand il y en a qui a crié les Américains, on a été tout de suite sur place pour les voir arriver. Je me suis donc retrouvé dans les premiers du premier rang, vers les barbelés, et quand la jeep américaine est arrivée, j'ai vu sauter, je pense que c'est un officier qui était à côté du chauffeur, il a grimpé sur le sud de la jeep, il a sorti un appareil photo pour prendre des photos. Puis c'est tout, j'ai vu prendre des photos. Mais... Et puis c'est plus de 20 ans après, en ouvrant un livre, j'ai dit, oh, la photo d'Halak, la photo de l'Américain a prise. Puis j'ai dit, oh, me voilà. Je me suis retrouvé tout de suite avec un copain, puisqu'on était deux. On était à peu près du même âge, et l'autre était déjà enseignant. Voilà. Et on a donc été libérés le 30 avril. La guerre a terminé le...
8 mai.
Combien ?
8 mai.
8 mai. Donc c'était 8 jours avant la fin de la guerre. C'était donc vraiment la fin. La fin. Il y a eu un seul camp qui a été libéré après nous. C'est le camp de Mauthausen, qui était lui en Autriche, sur les bords du Danube. C'est le seul camp qui a été libéré quelques jours, deux ou trois jours après. Autrement, les tout derniers libéraux. Voilà.
On enchaîne peut-être sur les questions que vous me posez par rapport à ce qui vient de vous dire. L'enseignement je ne sais pas.
Est-ce que vous voulez des précisions sur certaines choses ? Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. c'est la chose peut-être qui m'a fait le plus mal au début quand j'étais à Halak. C'est un soir, en rentrant, quand on est arrivé au camp, c'était fini à 6 heures le soir, le temps de revenir en rang, en rang cadencé et tout, au milieu de rangs électrifiés, des SS de chaque côté, puis les chiens policiers au milieu. On est arrivé au camp, il y avait une musique en grande tenue au camp. Je me suis posé la question, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Musique, pourquoi faire? On nous a mis à la place d'appel comme d'habitude, on nous a compté, recompté comme d'habitude pour savoir si tout le monde était rentré. Puis, machinalement, je ne sais pas, il y en a qui disent, oh, la potence. On n'avait pas vu que le long des baraques, il y avait une potence qui avait été dressée. Vous savez ce que c'est qu'une potence? Et au bout de, quand les appels ont été finis, la musique a commencé à jouer et on a vu arriver les SS avec un déporté qui avait les deux mains liées dans le dos et on lui tapait dessus pour le faire avancer. Il a passé devant nous, comme ça. On l'a emmené jusqu'à la potence qui était presque en face d'où j'étais. Moi. Et on l'a amené là. Et on a lu en allemand un arrêté. C'est que le tribunal allemand du camp avait décidé qu'il serait pendu parce qu'il avait, mal fait son travail. C'est un gars qui avait eu un problème, ce qu'il devait faire. L'avait-il fait volontairement, involontairement? Personne n'en sait rien, d'autant plus qu'il n'était pas un Français. Et on l'avait monté sur une espèce d'escabeau qui était haut comme ça. Et puis de là, il y a un SS qui est venu. On lui a mis la corde au cou, il y a un SS qui est venu, qui a donné un coup de pied dans l'escarpe, le petit machin, le trépied, qui est tombé, et le gars est tombé d'une dizaine de centimètres, pour bien plus, il était pendu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on nous a fait défiler tous en rang devant lui, alors qu'il se tortillait avec les mains liées dans le dos, au bout de sa corde. Parce que les pendaisons, ça a été un moyen d'exécution des gens à une époque, dans certains pays. On les faisait tomber en général d'un mètre. Quand vous tombez d'un mètre, d'un seul coup, puis la corde vous arrête, ça vous casse la colonne. Là. Et quand ça casse la colonne, en même temps vous êtes mort. Donc c'est une mort presque instantanée. Alors que là, on n'a rien fait tomber, je vous dis, une dizaine de centimètres. C'est-à-dire qu'il est mort étouffé, étranglé. Et j'en ai vu d'autres après, mais je dois dire que ça m'a fait un mal considérable. Je ne connaissais pas, je ne sais pas qui c'était. Mais je crois que ça m'a fait aussi mal si ça avait été moi. Parce qu'après, j'ai vu exécuter des gars, le essai dire à un gars de marcher à droite, l'autre... Où il a peur, où il ne comprend pas l'allemand, il va à gauche, paf, la rafale. Le gars est par terre. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. J'ai été bavard. Il y a des questions. Pas sur des... Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est quand il y a des termes que vous ne comprenez pas, il aurait fallu m'arrêter.
Quel était votre état de santé
là? Pardon.
Quel était votre état de santé à la libération?
Disons que je n'étais pas trop mal, mais je faisais 35 kilos. J'en passe 80 aujourd'hui. J'en faisais 35, j'étais aussi grand qu'aujourd'hui, peut-être même un petit peu plus, hein. Un centimètre ou deux de plus. Mais je dois dire que, je l'ai dit, la guerre aurait duré 15 jours de plus où personne ne rentrait. Parce que et la chose qui a le plus frappé les Américains, quand ils sont arrivés dans les camps, Ils n'ont pas vu fonctionner le camp, ils ne pouvaient pas, ça n'a pas pu les marquer, le fonctionnement du camp, parce que les camps étaient arrêtés quand les Américains arrivaient. Les SS étaient partis, s'étaient sauvés, donc il n'y avait plus rien. Mais, ce qui s'est passé partout, c'est qu'au fur et à mesure que les Américains avançaient, les Allemands se sauvaient, donc il n'y avait plus d'alimentation des fours crématoires. Et nous, tous les matins, du camp de Halak, on avait ce qu'on appelait le mort express, c'est-à-dire un grand plateau avec quatre roues, avec des pneus caoutchoutés, qui était beaucoup plus long que la traverse, là, hein, que la traverse de la salle. Ça devait faire, je ne sais pas, 20 mètres, au moins une vingtaine de mètres de long, hein, et puis largeur, 2 mètres de large. Là-dessus, tous les matins, c'est les déportés qui le traînaient, qui tiraient devant, puis d'autres qui poussaient derrière. C'était, on appelait ça le mort express. C'était tous les morts de la nuit qu'on avait eu, les morts de la journée de Halak. Alors tous les jours, on en avait 60, 70, 80, tous les jours. Puis à la fin, ça allait beaucoup plus, il y en avait plus. Bon. Eh bien, tous les matins, ils partaient à Dachau, avec tous les morts. Et à Dachau, il les amenait et on les passait au crématoire. Il les brûlait. Et le mort express, le véhicule qui les avait emmenés, traîné par des déportés, revenait avec la nourriture du camp pour le lendemain. Voilà, dessus. Il ramenait la nourriture du camp. Mais, lorsque les trains n'ont plus amené de charbon pour les crématoires, ben, le crématoire s'est arrêté. Donc le mort express ne servait plus à transporter les morts. Pourquoi emmener des morts de Halak à Dachau alors qu'ils n'allaient pas être brûlés puisqu'il n'y avait plus de charbon? Donc, ils allaient les empiler à Dachau. Pourquoi faire? Donc les morts sont restés à Halak. Et dans tous les commandos, ça a été pareil. Eh bien, les morts, on les a empilés sur la place d'appel, pas loin de l'entrée du commando. C'est-à-dire la place d'appel était une grande place rectangulaire en ligne qu'on voyait quand on entrait dans le camp, et sur le côté gauche en entrant, ben c'est là qu'on a commencé à empiler les morts. Et quand on a été libéré le 30 avril, eh bien je dois dire que on avait sûrement, nous, un millier de cadavres qui étaient empilés. Pas loin d'un millier. Une espèce de petite montagne de cadavres. Et j'y ai même vu des déportés. Je ne sais pas la nationalité qu'ils avaient, puis ça me... C'était là, j'essayais de voir s'il n'y avait pas quelque chose à gratter ou à manger, parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Hein. Et je me demande dans quelle mesure certains n'ont pas raclé des os pour avoir un bout de... Je ne l'ai pas vu faire, mais j'ai vu des cadavres entamés. Alors, c'est pas le gars qui s'était fait avant de mourir. Donc, ça venait bien d'autres qui étaient venus. Et je veux dire que, quand vous voyez ça, et quand les Américains sont arrivés à l'entrée du camp, la première chose qu'ils ont vue, ben, c'est ce tas de cadavres qui étaient là. Et ça, c'était dans tous les commandos pareil. On a empilé les cadavres avant, on ne peut plus les détruire, ni les enterrer. Il y avait trop de morts, il fallait faire trop de trous. Il n'y avait pas de possibilité pour les cacher. Attends, c'est sûr, quand vous arrivez, vous tombez sur une pile de cadavres comme ça, eh bien, ça fait mal. On était tellement habitués à ça, que je veux dire qu'on ça passait pas inaperçu, c'est pas vrai, mais disons qu'on n'a pas été marqué de la même façon. On ne savait pas, on aurait pu y être, hein, dans le temps.
Voilà. Paul Pioda.
Hein, Paul Pioda, moi j'y suis en rentrant. Et Paul Pioda était parti dans un autre camp et qu'il était mort peu de temps avant Noël. Il n'a même pas pu finir l'année dans le camp où il était. À mon avis, c'est un camp qui était pas plus tendre que où on était. C'est un commando aussi de travail, mais je crois que Il a eu surtout ce qui lui a manqué, c'est les copains autour de lui qui puissent l'aider moralement. Bon, je l'ai dit à son épouse, après, en enfant, je lui dis, s'il était resté avec nous, je pense que l'aide qu'on s'apportait mutuellement les uns les autres, on en a tous eu besoin. Tous.
Non. Mais je répète que cette histoire, c'est une histoire qui appartient au Michel Lalande aujourd'hui, donc elle est à bout.